Le journal de la rédaction, c'est avec vous Mathieu Laurent, bonsoir.
Bonsoir Julie et bonsoir à tous. Posture et dernières indiscrétions avant l'ouverture ce soir d'un sommet de chefs d'État à Bruxelles dédié aux nominations des postes clés de l'Union européenne. Les implications turques en Libye, plus que jamais dénoncées par le maréchal Haftar, dont l'offensive sur Tripoli marque le pas. Analyse du chercheur Jalal Archaoui. Nous nous rendrons également au cirque Romanès à Paris, où la députée France Insoumise Clémentine Autain tient meeting. Question pour refonder et repropulser le parti. Sarah Tuchereur est sur place. Enfin, Madrid centrale de nouveau ouvert à la circulation. Plus d'amendes dressées aux automobilistes qui s'aventureraient dans l'hypercentre de la capitale espagnole à compter de demain. Précision de Mathieu de Taillec. À qui la Commission ? Le Parlement aux sociodémocrates, mais vous n'y pensez pas. Le Parti populaire à son compte et le groupe de Visegrád et les libéraux, un marchandage, rien de moins. Chaque fois qu'il s'agit de renouveler la haute hiérarchie européenne et un sommet qui s'ouvre ce soir à Bruxelles. Bonsoir Angélique Boin.
Bonsoir.
Angélique, les premiers propos du président français à son arrivée sembleraient-ils rebattre les rares informations qui avaient filtré jusqu'alors ?
Oui, sans surprise, car tout n'est jamais totalement ficelé hein, avant le début des conseils européens, même si les tractations ont bien avancé dans les salons feutrés dans les 48 heures qui viennent de s'écouler. À son arrivée, le président français a donc à nouveau cité les noms de la commissaire européenne Margrethe Vestager, ou celui du français Michel Barnier pour diriger la commission, en plus de celui du néerlandais Frans Timmermans, le social-démocrate, alors que ce dernier est présenté depuis hier comme étant le candidat du compromis. Angela Merkel, à son arrivée, a aussi dit qu'elle s'attendait à des discussions pas très faciles. Emmanuel Macron a en fait réexpliqué ses priorités dans ce mercato qui doit, selon lui, définir l'équipe d'Europe pour les 5 prochaines années.
Merci à vous.
D'abord que ces nominations s'appuient sur un programme clair et un agenda partagé. Cet agenda, nous l'avons arrêté au dernier Conseil, dans un temps d'ailleurs rapide, autour d'une ambition climatique, d'un vrai projet économique et social, d'une Europe qui protège, d'un renforcement de la zone euro. La deuxième chose, que nous décidions rapidement. Je tiens donc à ce que nous puissions sortir de ce Conseil avec les réponses et cette nouvelle équipe. Et la troisième, j'avais donné les critères de cette nouvelle équipe. La compétence, en citant plusieurs noms, Michel Barnier, Margrethe Vestager, Frans Timmermans, entre autres. La deuxième chose, c'était des équilibres géographiques et de genre.
Équilibre de genre, le président français défend la nomination de deux femmes et là l'équation semble difficile à trouver. Outre Margrethe Vestager, le nom de la Bulgare Kristalina Georgieva, directrice générale de la Banque mondiale, est régulièrement citée pour l'un des postes. Les chefs d'État et de gouvernement ont prévu un dîner de travail ce soir, puis un éventuel petit déjeuner demain en cas d'échec de leur discussion.
Merci à vous Angélique Boin en direct de Bruxelles. Au lendemain des élections européennes du 28 mai dernier, la députée Clémentine Autain pointait le problème de la France insoumise à ses yeux, la ligne politique du parti. C'était il y a un mois, elle assure ici et là qu'elle n'a pas l'intention de quitter sa formation tout en soulignant les rigidités de la direction et de son leader Jean-Luc Mélenchon. Clémentine Autain ne serait pas sur le départ, mais plutôt dans la refondation, d'où le meeting qu'elle a impulsé au cirque Romanès à Paris. Bonsoir Sarah Tuchereur.
Bonsoir.
Sarah, vous assistez à ces débats auxquels participent plusieurs figures de la gauche politique, associative et syndicale. Que retenir du discours de Clémentine Autain ?
Eh bien, cette volonté de construire des ponts au sein de la gauche, en un mot, fédérer, c'est un verbe qu'on a beaucoup entendu tout au long de l'après-midi. Après-midi réunissant des personnalités politiques comme Olivier Besancenot, ancien porte-parole du NPA, des syndicalistes venus du monde hospitalier, de l'équipementier automobile GMS ou de la grande distribution Carrefour, par exemple. Philippe Martinez, chef de file de la CGT, doit aussi prendre la parole en ce début de soirée. Puis les écrivains Patrick Chamoiseau et François Bégaudeau concluront toutes ces facettes de la gauche. Clémentine Autain rêve de les voir dialoguer. L'éparpillement des voix aux européennes a créé un choc, a-t-elle dit. Un contre-exemple pour éviter de le reproduire. Sa solution, c'est le dialogue.
Ce que nous disons, c'est qu'il n'y aura pas de solution si on ne respecte pas le pluralisme. Il n'y a pas une force hégémonique aujourd'hui qui peut dire « alors maintenant, tout le monde derrière nous ». Il n'y a pas de caporalisation possible. Notre affaire, elle ne peut fonctionner et c'est une condition sine qua non que si nous nous respectons, si nous nous écoutons, si nous sommes capables d'abattre des murs, de ne pas rester dans nos présupposés. C'est pourquoi j'étais ravie d'avoir cette table ronde entre la gauche, le populisme et l'écologie, parce qu'au fond, moi je vous dis, ma conviction c'est qu'il faut faire une gauche écologiste populaire. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à dépasser ça aussi. C'est ça qu'il faut faire. Au final, il faut faire un archipel. C'est pas tout le monde pense la même chose, appuie sur le même clou, se met derrière un chef. C'est pas comme ça qu'on voit les choses. Si on passe notre temps à s'insulter les uns les autres, au final, c'est l'avenir qu'on insulte.
Alors Sarah Tucherer, comment ont réagi les militants ?
D'abord, ils étaient nombreux, hein, plusieurs centaines, des communistes, des écologistes, des proches de Benoît Hamon. Assez peu, il faut le dire, hein, de militants de la France insoumise. On sait que Clémentine Autain a pris ses distances avec Jean-Luc Mélenchon. Elle a été fortement applaudie par les présents des militants de gauche qui aspirent plus que jamais à une convergence entre leurs différentes tendances.
Merci à vous, Sarah Tucherer, en direct du Cirque Romanesque de Paris, grâce aux moyens techniques de Marcos Darras. Deux hommes placés en garde à vue après la nuit dernière une bagarre générale, quartier Bel Air à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines. Six blessés, dont trois en urgence absolue. Deux bandes rivales se sont affrontées à coups de couteau et de barres de fer. Le ministre de l'Intérieur demande un rapport au préfet de police de Paris sur les modalités de l'évacuation de militants écologistes de l'organisation Extinction Rebellion qui, vendredi, occupait le pont de Sully. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent les forces de l'ordre copieusement aspergées de gaz lacrymogène, des manifestants juste assis sur la chaussée. Khartoum vit de nouveau des heures graves. Les leaders de la contestation avaient appelé une manifestation aujourd'hui, appel entendu malgré les mesures d'intimidation envisagées par l'aile dure du conseil militaire de transition. Des dizaines de milliers d'opposants à cette structure défilent dans la capitale soudanaise. Appel a été lancé il y a quelques heures par les principales organisations civiles de marcher sur le palais présidentiel, marche à haut risque en prévision des rassemblements. Les paramilitaires des forces de soutien rapide ont été déployés sur plusieurs places de Khartoum à bord de leur pick-up armé de mitrailleuses. En Libye, les troupes du maréchal Khalifa Haftar sur Tripoli enregistrent un revers dans le cadre de l'offensive qu'elles mènent sur la capitale. Elles ont dû fuir la ville de Gariane, une centaine de kilomètres au sud-ouest de la capitale. Gariane qui leur tenait lieu de base arrière, de centre opérationnel. Le maréchal Haftar promet de s'en prendre aux intérêts turcs. La Turquie promet cet après-midi de riposter de la façon la plus efficace et la plus forte. L'homme fort de l'Est libyen avait pour habitude de dénoncer les soutiens étrangers du gouvernement de Tripoli et particulièrement la Turquie, et un peu plus aujourd'hui, depuis sa défaite et la fuite précipitée de ses hommes de Gariane. Les explications de Jalal Archaoui, chercheur à l'Institut néerlandais des relations internationales, basé à La Haye.
L'État turc a effectivement installé des drones armés en contravention, en violation de l'embargo contre les armes au mois de mai. Et ces drones armés de manufacture turque, d'ailleurs, ont été opérés avec l'aide de conseillers militaires turcs sur le terrain. Et ça a été un tournant. Ça a été un tournant parce que c'est venu démoraliser les troupes de Haftar. De l'autre côté, ça a augmenté le moral des troupes des Misrati, notamment. Et on comprend ainsi que le maréchal Haftar se focalise sur cette interférence turque parce qu'effectivement, elle a fait une différence. Elle est venue changer un petit peu le cours des choses. Et les missiles américains, les photos ont été prises, ce sont des missiles ultra sophistiqués qui sont destinés à faire sauter des chars ou des bunkers et qui ont été vendus de manière tout à fait exclusive, tout à fait régulée par les États-Unis d'Amérique aux Émirats Arabes Unis. Donc les Émirats Arabes Unis n'étaient pas censés les transmettre à une tierce entité. On est arrivé à une dynamique complètement amorale où le Conseil de sécurité de l'ONU reste complètement pantois, complètement silencieux, et il y a une banalisation de la violation la plus outrancière des deux côtés.
Des propos recueillis par Nabila Hamel. De lourdes attaques de talibans afghans dans la province de Kandahar qui ont visé des bâtiments d'une commission électorale, 19 agents tués et 25 talibans abattus par les forces de sécurité, selon le ministère afghan de l'Intérieur. L'héritier des Kim Jong-un, est apparu ouvert à la négociation et l'héritier tout court, Donald Trump, inscrit au tableau de ses audaces un pas en zone démilitarisée entre les deux Corées au lieu de la guerre de Corée, pas historique avec à la clé une relance des pourparlers sur le nucléaire nord-coréen, plus-value en partage. Mais quelle moisson au juste pour le président américain, moyennant quelle stratégie ? Bernard Thomasson a posé la question à Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis et maître de conférence à l'Université de Paris 2.
Il essaie de faire plus que les autres en réalité. Il pense qu'il a la baraka, que lui peut faire bouger les choses, lui a compris le monde et est capable de les faire évoluer. Souvenez-vous quand même avec la Corée du Nord, comment ça s'est passé. 8 mars 2018, il annonce qu'il va rencontrer Kim Jong-un, à la surprise générale, après qu'on l'ait informé que Kim Jong-un aimerait bien le rencontrer, ce qui était le cas depuis très longtemps. Les Coréens ont toujours voulu rencontrer les présidents américains. Il dit banco. Et ça se fait très rapidement, 3 mois après, il y a cette première rencontre qui est une prise de contact. Donc c'est vraiment très récent, à peine 1 an et demi. Là encore, on l'a dit, ça aurait été préparé 2 jours avant, enfin pas préparé du tout. Et il va très loin puisqu'il est allé personnellement sur place avec tous les risques que cela comporte pour un président américain d'aller sur le terrain. Donald Trump pense qu'effectivement, en faisant des coups, il peut faire avancer les choses. Et c'est vrai qu'en l'espèce, il a relancé le processus puisque le processus était complètement à l'arrêt. Donc il renverse les codes et là, les discussions vont arriver après la rencontre, alors que d'habitude, ça se passe dans l'autre sens. Donc on est obligé de saluer la performance.
Quel est l'intérêt pour les États-Unis dans cette affaire? Est-ce qu'ils craignent réellement la bombe nucléaire nord-coréenne, par exemple?
Ah, je crois que oui. Il y a eu quand même, sous Barack Obama, vous vous en souvenez, tous ces essais nucléaires qui se sont succédés. Donald Trump, à son arrivée, a eu à essuyer le 6e essai nucléaire. Là, la ligne rouge était largement franchie. Il fallait donc que le commandant en chef de l'armée américaine, le président Trump, réagisse, c'est ce qu'il a dû faire, en annonçant le feu et la fureur et sa capacité de détruire la Corée du Nord si les intérêts américains étaient touchés. C'est ce qu'attendait le peuple américain parce que, effectivement, là, ça allait trop loin. Donc, ce que veulent les Américains, c'est que la paix soit ramenée sur cette planète, en particulier pour leur propre sécurité.
Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis, maître de conférence à l'Université de Paris 2. Contre nature, Madrid centrale, la zone à basse émission de la capitale espagnole, vit ses dernières heures. À partir de demain, toutes les amendes seront suspendues pour au moins 2 mois. Autrement dit, tout le monde pourra circuler dans l'hypercentre, qu'il y vive ou non, que sa voiture pollue un peu ou énormément. La mesure était efficace pour améliorer l'air de l'une des capitales européennes les plus polluées, mais la nouvelle majorité de droite de la mairie de Madrid y a vu un symbole de l'équipe de la gauche sortante. Le démantèlement de Madrid centrale a rassemblé entre 10 000 et 60 000 personnes lors d'une manifestation organisée hier soir. C'est une correspondance de Madrid de Mathieu de Taillac.
Yo si quiero Madrid Central, moi j'aime Madrid Central, le nom de la zone à basse émission du centre-ville de la capitale espagnole. Demain lundi, les 5 km² de l'hypercentre ne seront plus réservés aux riverains, commerçants, services publics et voitures propres. Les amendes seront suspendues pendant au moins 2 mois. Tout le monde pourra à nouveau circuler sans entrave sur la Gran Vía, la grande avenue fermée au plus grand nombre il y a 6 mois, et même dans les petites rues de Lavapiés, de Malasaña ou de Las Letras, 3 quartiers réservés aux habitants depuis déjà 15 ans. Le démantèlement de Madrid Central exaspère les manifestants. Ils ont peur pour l'environnement et pour leur santé. Asunción, 66 ans, géologue.
C'est quelque chose de la Moyen Âge. On ne veut pas être à la Moyen Âge. Nous sommes une ville moderne, une ville importante. Ces gens qui sont à l'hôtel de ville maintenant n'ont pas un projet politique pour la ville. Alors, ils annoncent seulement des mesures qui sont contre ce que l'ancien hôtel de ville a fait.
L'ancienne maire de gauche avait unifié et étendu la zone à basse émission mise en place par les équipes précédentes de droite. La mesure avait fait baisser la pollution et évité à la mairie de payer les fortes amendes de Bruxelles. Le nouveau maire, s'il supprime définitivement Madrid Central, devra expliquer quelles mesures alternatives il compte mettre en place.
Correspondance de Madrid de Mathieu de Taillac. La vigilance orange canicule concernera demain encore 32 départements métropolitains. Les températures deviendront supportables si l'on en croit Météo France dans bon nombre de régions, excepté dans le sud-est. Minimale comprise entre 12 degrés dans le nord-ouest et 25 degrés dans la région niçoise. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau.